En sol majeur, vous propose cette rediffusion.
Bon, bah,
près de Chine.
Trinquer à frontière, ici à Bucarest.
Merci.
Apolline Traoré, goûtons.
Il est pas mal, hein. Apparemment, ils ont un bon vin ici.
En sol majeur, Yasmine Joaquin.
Alors, est-ce que oui ou non les femmes veulent encore du pain et des roses? Oui, à en croire la conférence des femmes de la francophonie qui se tenait les 1er et 2 novembre dernier en Roumanie, pays hôte de cette conférence, axée sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la création. La francophonie souhaitant la nécessaire reconnaissance de la contribution féminine au développement économique des pays membres. Une lapalissade qui valait bien une glissade jusqu'à Bucarest. Émission enregistrée dans cette ville de la joie où avant le pain, des fleurs ont été remises à ces femmes d'exception qui font et défont le monde. Notre invitée, réalisatrice burkinabé, en sait quelque chose, auréolée qu'elle est de 3 prix spéciaux au dernier FESPACO, notamment le prix spécial CDAO de l'intégration pour le meilleur film ouest-africain et le prix spécial Félix Houphouët-Boigny pour son film Frontières. Bonjour Apolline Traoré.
Bonjour.
On est dans un restaurant, un des plus chics de Bucarest, au Vatra.
Bah oui, c'est un très beau décor en tout cas.
C'est-à-dire?
Bah, je vois la tradition, la culture, sur les murs, dans l'accueil.
On va goûter aussi la gastronomie roumaine. Enfin.
Exactement, exactement.
Vous avez commandé quoi?
Alors, j'ai commandé un assortissement de viande, poulet, pour goûter un peu à tout. Parce qu'apparemment, ils font très bien la viande ici.
Vous arrivez de Côte d'Ivoire et vous vivez au Burkina Faso, après avoir vécu aux États-Unis. On va raconter tout ça. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les frontières?
Oui, je suis très à l'aise avec les frontières. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et j'ai décidé de rentrer chez moi finalement parce que je me sentais libre de faire ce que je voulais chez moi. Mais c'est vrai que j'ai aussi la chance de pouvoir partir un peu partout dans le monde. Mais retourner chez soi, c'est vraiment important.
Est-ce que vous nous rappelleriez rapidement ce qu'est la CDAO, Apolline Traoré?
Ben, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est compris de 15 pays, majoritairement francophones, mais c'est vrai qu'on a aussi des pays anglophones et portugais. On n'a pas tous la même monnaie, mais on a le même combat.
Alors c'est sur les routes de ces pays membres de la CDAO que vous campez Frontières, votre road movie magnifique, dans un périple de 7 jours, aux frontières de 5 pays et à travers 4 femmes. Pourquoi aborder la question, parce que c'est le thème de l'intégration africaine, à travers des portraits de femmes?
Mais tout simplement parce que les femmes sont non seulement les plus vulnérables, ça c'est un, et deuxièmement, ces femmes que l'on voit dans les marchés, ce sont elles qui, d'un côté, tiennent un peu cette économie de nos pays.
Alors, vos personnages s'appellent Emma, Sally, Mimi, Adjara. Qui sont-elles et c'est quoi leur but dans ce périple?
Leur but, elles ont toutes un objectif différent. Quand elles prennent ce bus, Adjara, l'actrice principale, qui est jouée par Amélie Mbaye, elle part en aventure, elle va découvrir, parce qu'elle a été envoyée pour faire du commerce avec ces femmes de l'association.
Elle vient du Sénégal.
Elle vient du Sénégal, donc pour la première fois, elle va prendre la route. On a Nakissi Savané, qui est jouée par Emma, qui est la doyenne du groupe, parce qu'elle fait ce commerce depuis très longtemps, donc elle sait ce qui se passe sur ces routes-là.
Elle vient de la Côte d'Ivoire.
Et elle vient de la Côte d'Ivoire, et... Après, il y a Adizetou qui vient du Burkina Faso, qui incarne vraiment la naïveté de nos jeunes sœurs africaines qui se laissent berner par l'amour, je dirais. Et en dernière position, évidemment, du Nigeria, qui est Wana, qui est qui est une femme qui a migré justement vers le Burkina parce qu'elle a eu des problèmes personnels, familiales, et elle prend cette route pour rentrer au Nigeria parce qu'il y a sa sœur qui doit se marier.
Alors grâce à votre belle caméra, Pauline Traoré, on se retrouve donc sur les routes avec un moment Emma et Adjara. Elles se retrouvent à la... elles ne se connaissent pas encore très bien, mais ça va venir. Elles se retrouvent à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.
Vous avez quoi à déclarer ?
Des bazar.
Vous êtes ensemble ?
Oui, oui.
Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle ne parle pas là. Cela n'a pas l'air très en forme. Si elle est malade, nous serons obligés de la débarquer.
Non, 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 ça va. Elle est juste un peu fatiguée. Le voyage a été long.
Vous avez combien de pagnes ?
Dans les deux sacs, 50 pagnes.
J'espère que vous me dites la vérité sur la quantité. Sinon, bien. Ça fait 1000 francs par pagne. Vous payez 50 000 francs CFA.
C'est écrit où ?
C'est écrit sur mon front. Bon, c'est 2000 francs par pagne maintenant.
Je vous en prie, mon frère. Pour nous aider, nous n'avons que 20 000 francs. Le voyage a été long. Nous avons dépensé tout ce que nous avions sur la route.
Tu as la chance que ta tante est avec toi. Sinon, donnez l'argent et allez-vous-en.
Et le reçu ?
Le reçu ? N'a qu'on faut bon finir la reçu. Pour Yoda.
Un extrait en sol majeur de votre film Frontières, Apolline Traoré, en attendant un petit poulet avec de la polenta dans ce restaurant Vatra de Bucarest. À l'instant, avec Nakis Issavané, deuxième prix d'interprétation féminine au dernier FESPACO. Toujours dans le cadre de la conférence des femmes de la francophonie. Alors, qu'est-ce qui cloche finalement ? Parce que c'est la question que vous posez à travers ce film, par rapport à ces textes votés de la CEDEAO, qui est censée promouvoir ou protéger la libre circulation des biens et des personnes. Qu'est-ce qui explique que ces textes soient si peu respectés dans cette zone ?
Écoutez, il y a beaucoup de facteurs. On a un vrai problème de corruption, déjà. Les douaniers, les policiers estiment qu'ils peuvent peut-être gagner un peu plus. Ils estiment que leurs salaires sont bas, qu'ils font de longues heures loin de leur famille, à ces frontières-là, et qu'il y a beaucoup d'argent qui passe devant eux, et que s'ils peuvent en avoir aussi, ben voilà. Donc, comment aller vers cette corruption ? C'est un gros, gros, gros problème.
Comment la combattre, vous voulez dire ?
Comment la combattre, c'est ça. Je le dis souvent parce qu'on me dit, vous savez, est-ce que votre film peut changer quelque chose ? Mais le fait qu'on le sache, c'est important, le fait que la population le sache, parce que sur ces routes-là, la plupart, en tout cas, de ces voyageurs ne sont pas très lettrés. Ils ne savent même pas qu'ils ont le droit de dire non. Ils ne savent même pas qu'ils ne devraient pas payer ce qu'on leur demande de payer. Moi, mon but, en tout cas, pour ce film, c'était de faire comprendre aux gens qu'ils ont une certaine dignité et qu'ils ont un certain droit qu'ils peuvent revendiquer. Mais ensemble, parce qu'individuellement, ça ne marchera pas.
Alors, ce système de corruption que vous dénoncez à travers frontières, vous, d'une certaine manière, vous le combattez en donnant à voir qu'il faut connaître ses droits. Et ça va être une des problématiques d'un de vos personnages, Adjara. Ce film, prix spécial CEDEAO de l'intégration, je le redis, a étonnamment été financé par la CEDEAO. C'est très étonnant. Il n'y a pas de comité de censure à la CEDEAO, alors ?
Ben écoutez, ça a été un long combat, je vous dis, parce que moi j'ai écrit mon film et je cherchais des financements. Je dis, mais qui va financer ce film ? Je suis en train de défendre quelque chose, mais je vais aller vers ceux qui défendent ces lois, qui ont écrit ces lois. Donc s'ils veulent...
Mais qui ne les appliquent pas.
Ils essaient de les appliquer, mais ils ne peuvent pas être... En fait, je vous explique avec la CEDEAO. La CEDEAO est comme l'Union européenne, voilà. Ils viennent avec des textes. Et chaque pays est quand même indépendant, c'est-à-dire que ces textes sont écrits, sont votés. Maintenant, c'est à chaque pays d'appliquer de sa manière ces lois-là. La CEDEAO n'est pas là pour aller appliquer. Ils ont donné des textes et ils essaient en tout cas d'inciter chaque pays à le faire.
Mais est-ce que vous pensez que c'est sur la base d'une vraie lecture de votre scénario que vous avez été soutenu financièrement ?
Ah oui, je vous dis, je vous assure, parce que le commissaire de la culture dont le département était tutelle de ce projet-là, m'a appelé, il m'a dit « Madame Traoré, si vous faites ce film-là, je serai très honorée parce que vous avez écrit l'histoire de ma mère. » parce que ma mère a été commerçante et ma mère, avec ce commerce-là, a payé mes études. Et c'est grâce à elle que je suis aujourd'hui ce que je suis. Et ça, ça m'a touchée. Il m'a défendue et il est allé vraiment au plus haut des combats pour que je fasse ce film-là. Parce que vous savez, la CDAO n'avait jamais investi autant d'argent dans le cinéma.
Combien ?
150 000 euros. Ouais, ils n'avaient jamais fait ça et c'était vraiment aussi un pari. Et sincèrement, j'ai eu aucune influence de ce que je devais dire, ce que je devais faire. Et ils m'ont laissé vraiment carte libre.
Alors on va retourner sur ces routes avec ces commerçantes à la frontière du Burkina Faso, dans ce bus qui traverse donc tous ces pays de la zone CDAO. Une passagère qui avait confié ses bijoux aux passagers du bus juste avant de passer la douane, pour les planquer, hein, soyons clairs, tente de récupérer son bien. Frontière, extrait.
Excusez-moi, je peux récupérer mes bijoux, s'il vous plaît? Merci, madame. Madame, mes bijoux. Merci beaucoup. Monsieur, mes bijoux.
Quels bijoux?
Les bijoux que je vous ai remis juste avant de passer la frontière?
Vous ne m'avez jamais remis des bijoux. Maintenant, laissez-moi dormir.
Quand tu redis, venez donc. A forigné le coup sous la rivière, sous comme Romingan, la foule la tchèque, et bien, quand on voit le mambi, tachez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a pour la tachez, il y a qui vient de la foule? Les bernes sont dit, mais bon, on a mis ici, sous la rivière. Ah, bien, ma tchèque, on a bien la maté.
Ça suffit. Vous allez causer un accident.
Je vais juste récupérer mes bijoux.
Eh, monsieur, remettez-lui ses bijoux pour qu'on puisse partir. On a perdu trop de temps à la frontière.
Elle se trompe. Je n'ai pas de bijoux.
Il ment. Fouillez-le.
Petite tartine bien haillée, là, dans ce restaurant Vatra de Bucarest. Pour faire glisser cet extrait de frontière, il n'y a pas de frontière linguistique, cela dit, dans ce film, Apolline Traoré.
Non.
Comment ça s'est organisé, cet espace linguistique?
Alors, ce que j'ai voulu, non seulement visuellement dans le film, c'est de montrer les paysages de chaque pays, mais à chaque pays que l'on traversait, d'entendre la langue natale. Parce que les trois langues de la CDAO sont le français, l'anglais et le portugais. Et donc, du coup, le français était vraiment la langue de communication pour ces quatre femmes d'origine différente.
Apolline Traoré, vous esquissez le portrait d'un visage féminin solidaire. Vous soulignez la solidarité féminine. On a une jeune fille qui effectivement est victime d'une espèce d'escroc, de Roméo escroc. On a cette Emma magnifique interprétée par Naki Sisavané qui est cynique, qui est une commerçante aguerrie à l'exercice de la route et qui voyage absolument seule et qui ne veut pas être l'amie d'une certaine Adjara qui, elle, au contraire, est la générosité, la bonté même. Et elles vont finalement, il y en a une quatrième qui va finir de façon dramatique, elles vont finalement ne former qu'un. Il y a un message à l'intérieur de cette solidarité féminine.
Oui, il y a un message, vous savez, positif et négatif. Cette solidarité est là, très forte, par rapport à ce qu'elles ont vécu, par rapport à comment est-ce qu'elles ont agi. Mais il y a une autre désolidarisation par rapport à notre culture. Parce que vous savez, dans le film, on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai fait exprès. C'est que quand cette jeune fille est violée, à aucun moment dans le film, ses compagnons de route lui ont demandé si elle allait bien. Pas du tout. Parce que le viol, chez nous, on ne doit pas en parler. C'est tabou. On ne le considère même pas. On voit la violence physique. Puis après, ça s'arrête là.
Vous combattez l'hypocrisie de la société, finalement.
Exactement. Exactement. Et c'était important pour moi de parler de ça dans ce film-là.
Bilan de ce road movie, une femme violée, une femme tuée, mais une amitié et une solidarité naissante. En même temps, vous avez l'air de penser, Apolline Traoré, que les femmes seraient plus douées que les hommes, peut-être, pour faire marcher cette fameuse intégration africaine. Hein, je vous vois sourire.
J'en suis persuadée. Hein. Je ne pense pas que si c'était quatre hommes dans ce bus-là, ils auraient été aussi solidaires. Je ne crois pas. Ça, c'est mon opinion. Mais on a tellement de problèmes en Afrique. Et la femme, depuis tant d'années, a été soumise d'une certaine manière par rapport à sa voix, par rapport à ce qu'elle peut dire, par rapport à ce qu'elle peut faire. Mais elle voit tout, elle entend tout, elle sait tout de ce qui se passe. Donc elle a eu le temps aussi d'analyser, elle a eu le temps de comprendre certaines choses. Et en lui donnant la parole, je pense qu'elle peut changer beaucoup de choses. Elle n'est pas dans la... Oh,
magnifique, ah, cette assiette de purée brochette.
C'est ça, et vous savez que il y a plusieurs choses dans ma brochette.
Je vous en prie, merci beaucoup. Le poulet polenta, merci. Apolline Traoré, féministe apparemment. Alors, féministe intégriste, je ne sais pas, ça c'est une question. Si on plonge presque au hasard notre regard sur votre filmographie, on peut tomber sur complètement autre chose. Cette série télé que vous avez intitulée « Et les hommes et les femmes », petit module de 5-6 minutes où vous mettez en scène les rapports hommes-femmes, bien sûr, au Burkina Faso. Petit exemple, avec ce couple qui croise la maîtresse de monsieur. Monsieur fait mine, bien sûr, d'être agacé devant son officiel, son premier bureau, comme on dit. Mais lorsqu'il se retrouve avec sa maîtresse, c'est la grande scène du 2.
S'il te plaît, comprends-moi. Tu sais bien que tu es tout pour moi. Je ne suis rien sans toi. Toute ma vie, c'est pour toi. Tu sais, même à mon service, là, maintenant, on trouve que je travaille bien. C'est grâce à toi. Ce matin-là, si je t'ai négligé, je suis en instance de divorce. Et elle est capable de tout. Elle connaît tout le monde au palais de justice. Et sa mère a couché avec tous les juges. Si je m'amuse, ils vont tout me prendre. Même ma villa. Et qu'est-ce que moi je vais garder pour toi, s'il te plaît? C'est pour cela que j'ai eu cette attitude-là.
Elle, comme...
Hein? Comprends-moi, s'il te plaît.
Liaison dangereuse.
On boit à la santé de ces hommes du continent, mais du monde, qui se reconnaîtront sans doute.
Bien sûr.
Bon, on n'est pas dans l'univers de Choderlos de Laclos, on est bien d'accord, Apolline Traoré, mais qu'est-ce que vous avez voulu épingler particulièrement de ces relations hommes-femmes du continent, on va dire?
Chacun accuse l'autre de nos... de nos dérives. Il y a une vague de comportements, je pense, entre hommes et femmes aujourd'hui, en Afrique, entre ces filles et ces hommes mariés, avec ces jeunes filles qui veulent des hommes riches. En fait, c'est dans ce contexte-là que j'ai fait « Et les hommes et les femmes ». Pas dans un contexte vraiment d'amour, c'est dans un contexte de recherche de plaisir, non seulement, mais de confort aussi.
De promotion sociale.
Exactement, exactement.
Et comment ça se passe alors, puisqu'on parle dans ce cadre de la conférence des femmes de la francophonie, comment ça se passe dans le 7e art africain, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on peut parler d'égalité des chances hommes-femmes, Apolline Traoré? Est-ce que vous travaillez dans les mêmes conditions que les hommes?
Je dirais oui, mais je vous dirais, en tant que femme, pour moi en tout cas personnellement, ce qui se passe après. Quand on dit conditions, on a les mêmes conditions pour chercher de l'argent. On a les mêmes conditions de galère sur le tournage. On a les mêmes conditions de tout ça. Le problème en tant que femme, où on n'a pas les mêmes conditions, justement, je pense que c'est le regard de nos films, quand ils sortent, comment il est perçu, justement, par la société, par les hommes.
Vous n'êtes pas jugé de la même manière.
On n'est pas du tout jugé de la même manière.
Votre film ne vaut pas pour argent comptant, donc. Ouais. Et vous demandez apparemment du pain et des roses, comme dans le poème d'un certain James Oppenheim, que j'invite les auditeurs à redécouvrir. Apolline Traoré,
oui.
Vous avez fini votre assiette. Hein.
Ah bah oui, c'était très bon.
Plus de brochette, plus de purée.
Bah je vois que vous... Vous stagnez, hein?
Oui, c'est vrai. C'est difficile d'esquiver, là. Avant de raconter un peu votre trajet de par le monde et dans la grosse pomme, jusqu'ici à Bucarest, si on accueillait en sol majeur 3 minutes une certaine Adèle, avec Someone Like You. Pourquoi cette chanson?
Parce qu'elle me fait pleurer. Elle me fait pleurer. J'adore sa voix déjà. J'adore son message. J'adore sa voix, j'adore son message, j'adore cette humilité de cette femme qui voit son amour partir, quoi. Voilà. Il y a des messages comme ça qui me touchent quand je suis morose, quand je vais pas bien et que tout m'énerve. Ça, c'est une chanson que j'aime écouter et qui me donne un peu d'espoir. Espoir. Je n'aurais pas dû utiliser ce mot. Mon mari va être pas de contre.
That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember. Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time. Surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
Est-ce que vous voulez un dessert,
Apolline
Traoré ?
Non.
Vous n'êtes pas dessert ?
Je le suis, mais je fais attention.
Vous êtes deuxième verre de vin rouge, par contre.
Bah oui, il fait froid dehors.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur, toujours à Bucarest, sur un tapis d'automne qui nous rappelle que le temps ne fait rien à l'affaire. Les femmes ont bien une âme, mais pas de vraie reconnaissance dans l'espace économique francophone. La preuve par cette conférence des femmes de la francophonie qui se tenait ici en Roumanie. C'est donc dans ce restaurant Vatra et sur ce tapis d'automne, dans ce décor des Carpates, que je reçois l'une des invitées de cette conférence qui a fait l'événement du dernier FESPACO avec son film Frontières. Apolline Traoré, réalisatrice burkinabé, qui regarde le Faso et le continent dans les yeux. Vous diriez ça comme ça ?
Bien sûr.
Mm-hmm. Oui. Est-ce que vous pensez que le cinéma, question à delay, peut changer le regard des hommes dans le monde sur les femmes ?
Oui, bien sûr, parce qu'on fait un portrait de femme tel qu'il est. Pendant des années, le cinéma, c'était les hommes qui disaient ce qu'ils pensaient des femmes. Et je pense que la sensibilité des femmes à l'écran est très différente.
Vous trouvez ?
Ah bah oui. Ah bah
par
oui.
Exemple ?
Je peux parler tout de suite du film Mouladé de Sam Ben Ousmane, qui a fait un beau portrait de femme sur l'excision. Je le trouve bien. Mais les personnages féminins dans ce film-là, j'ai pas vraiment été touchée par ces femmes. Elles parlaient, elles se défendaient, elles combattaient. Mais l'approche de la manière dont elles se défendaient, en tant que femme, je l'aurais défendue d'une autre manière. C'est pas seulement physique ou l'agressivité face à face. On peut le faire subtilement, on peut le faire avec une douceur, on peut être agressif doucement. Hein. Et ça, je pense que ça, nous femmes, on sait comment le faire. Un homme aurait du mal à montrer ça parce qu'il connaît pas. C'est pas sa faute. Il peut pas savoir.
Elle est jeune, veuve, elle vit à Kalassa, c'est un village reculé du Burkina Faso. Et Apolline Traoré, vous la filmez en noir et blanc. C'est moi, Zafira, personnage de votre premier long métrage qui a été projeté ici lors de la conférence des femmes de la francophonie.
Autoportrait.
Qui suis-je ? Vraiment, je ne sais pas. C'est ce que dit votre personnage en Bambara, en ouverture de ce très beau film, Moi Zafira. Et cette simple question, qui suis-je ? Fait qu'elle sort du groupe immédiatement et qu'elle sort de la tradition. Est-ce que c'était le propos de votre film, Apolline Traoré ?
C'était exactement ça. Sortir de la tradition, entre garder ce qu'elle a appris et basculer dans le monde moderne n'est pas toujours facile. Parce qu'on le voit de loin, on l'admire peut-être, mais on ne le comprend pas. Et il faut du temps pour le comprendre. Et puis après, il faut faire un choix si on veut basculer ou si on ne veut pas basculer. Ou si on prend ces deux et on apprend des deux et on fait notre vie avec. Ce film est peut-être un portrait de ma personne.
Ah oui ?
Ah oui, pas Zafira, mais la petite. Parce que c'est un clin d'œil à mon père. C'est un clin d'œil à beaucoup de choses. Tout simplement parce que mon père, il n'a jamais voulu que je fasse du cinéma. Il avait peur de ce métier qu'il ne comprenait pas. Pour lui, le cinéma, c'était un diplomate. Pour lui, c'était juste un divertissement. Et ma mère était ma plus grande fan. Et elle m'a soutenue et... Quand je suis arrivée aux États-Unis, ils ont refusé de payer mes études. Mais bon, après, je me suis battue pour y arriver. Donc, ce film, vraiment, c'était pour dire aux parents, c'est normal que les parents protègent leurs enfants en leur guidant. Mais c'est pas toujours la bonne façon.
On reviendra sur vous, mais votre Zéphira, on y reste une seconde. Elle a un rêve dans ce village reculé du Burkina Faso, c'est de devenir mannequin, un petit peu comme dans ces magazines qui viennent de la ville. Et pour travailler, parce qu'il y a un vrai problème de chômage, elle qui a perdu ses parents dans une guerre fratricide, brave absolument tous les interdits, et se retrouve à un moment dans un village minier à travailler au milieu d'hommes, uniquement d'hommes. Elle-même est obligée de se déguiser en homme pour pouvoir travailler, entre guillemets, librement. C'est-à-dire que quand on regarde ce film, le corps de Zéphira est en fait traversé par toutes les problématiques du continent.
Oui. C'est ça, c'est le fait d'être coincé dans un endroit où on ne veut pas. C'est le fait de ne pas pouvoir travailler, c'est le fait d'être une femme et ne pas être dans un milieu qui est ouvert à tout le monde.
C'est d'avoir un rêve pour son enfant qui ne va pas avec la loi et la tradition.
Ouais, exactement, en fait Zafira combat toutes ces traditions, qui l'interdit toutes ces choses, parce qu'elle... Elle a un regret, elle n'a pas pu devenir ce qu'elle voulait.
Alors son rêve avec sa petite fille, il faut le dire,
c'est qu'elle devienne mannequin. En même temps, elle ne sait pas c'est quoi être mannequin. Elle rêve et c'est ce que les Africains font. Ils voient la télé, ils voient les magazines et ils rêvent d'être ce qu'ils voient sans connaître exactement ce que c'est.
Mais vous avez quelle position finalement ? Parce que ce personnage, vous le disiez bien, est à la croisée de la tradition qu'elle combat et d'un rêve occidental un peu irréaliste et vidé de sa substance. Ça ne correspond à pas grand-chose finalement. Vous prenez quelle position par rapport à ce dilemme éternel entre tradition et modernité ?
Moi, ma position, c'est qu'on a besoin des deux, tout simplement. Moi, je l'avais perdue, cette tradition, parce que je n'ai pas vécu chez moi. J'ai bu, je me suis lavée de cette culture américaine, parce que c'est ce que je connaissais. Et quand je suis rentrée, j'ai retravaillé, justement, pour aller récupérer ma tradition africaine. parce que c'est important, parce que c'est ce qui me allait me différencier de toute autre personne, et surtout même en tant que réalisatrice africaine. Mais je suis contente d'avoir les deux.
Jokri. Neta lokri. Wallahi bi ya fama ntisira ka maboira. Nyalo kibisira ma ukana to ko fale bina. Balsa mini la getu mabe. Nga chena. Nika sira to ta miria tara koi. Eh. Lokri. Ifa ba fe kandi tia ku yara itoko chema.
Ah, itu balon ko mandine de.
Nga nele fana ba fe nika ni furu mke. Wallahi bi deli. Tamasien kenyi. Aywa, iko nti fui fora o. Mini to, kofe mna to nyefi.
Extra en sol majeur de Moi Zafira, toujours dans ce restaurant Vatra, où on peut entendre de temps en temps un peu de musique. C'est agréable, non?
Oui, c'est agréable.
Vous voulez une photo?
Oui, je veux une photo.
Oh là là. Vous faites comme les Japonais?
Pas jusque là. Mais on y va, on y va, on y va.
On y arrive, ouais.
Ouais.
Vous arrivez à 17 ans aux États-Unis avec un papa diplomate qui n'est pas tellement d'accord pour vous payer ses études. Je ne sais pas comment vous avez fait pour le convaincre, ce papa diplomate. Est-ce qu'en arrivant là-bas, vous vous transformez en afro-américaine, Apolline Traoré? Allons-y.
Pas du tout. Je ne me transforme pas du tout en afro-américaine. Je reste africaine, une africaine certes perdue, parce que je suis tombée dans une ville où il y avait deux fois 15 cm de neige à Boston, avec un froid que j'ai jamais connu de ma vie, et j'ai dû apprendre.
Le froid humain aussi ?
Le froid humain, ouais. J'étais dans une école...
Dans une ville blanche, très blanche, majoritairement.
Dans une ville très blanche, et dans une classe où j'étais la seule noire. J'ai dû apprendre vite. Je savais pourquoi j'étais là.
Mais vous n'aviez pas ce fantasme de rentrer dans le moule afro-américain,
pas du tout. Pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que ce que j'avais vu, c'était pas du tout... On avait la même couleur de peau, mais on avait... Je n'ai pas envie de dire rien en commun, mais presque ça. On avait rien en commun. C'était aussi, pour moi, la même chose que d'approcher les Blancs, que d'approcher les Afro-Américains. Et je m'éloignais aussi des Africains, de mes frères africains, tout simplement parce qu'on a cette manie d'arriver en Amérique et on cherche nos frères. Mais du coup, après, on ne parle pas très bien la langue parce qu'on parle notre temps à parler français.
Est-ce que vous avez vécu ce qu'on peut appeler le rêve américain ? Parce que ça fait rêver finalement à la fois du continent et de l'Europe de faire une école de cinéma aux États-Unis.
Non, je ne l'ai pas vécu. J'ai pensé que j'allais le vivre parce que quand j'ai fini mes études, mon professeur qui m'a tenu, qui était un Jamaïcain, qui m'a dit cette phrase, Apolline, le cinéma que tu fais... Tu devrais aller à New York après tes études. Apolline Traoré, comme elle pensait qu'elle était arrivée, a dit « Bah non, moi je vais à Hollywood, hein, qu'est-ce que je vais foutre à New York ? Excusez-moi du terme, mais... » Et je suis partie à New York. Ah, à Los Angeles, pardon. Et là, j'ai eu une belle claque.
C'est-à-dire
j'ai rien aimé là-bas. J'ai pas aimé l'atmosphère, j'ai pas aimé la mentalité, j'ai pas... Tout était faux. Quelqu'un ne perd pas son temps s'il sait qu'il ne peut pas obtenir quelque chose de vous. Il ne perd pas son temps pour vous parler. Et je me suis rendu compte, en fait, que pour faire carrière là-bas, il fallait que je devienne comme eux. Et je n'étais pas prête pour ça.
Donc, aucune chance qu'une Apolline Traoré puisse percer aux États-Unis ?
Aucune chance si je voulais parler de mon histoire. Personne n'a rien à cirer de mon histoire là-bas. Après quelques années, j'ai décidé, bon, écoutez, finalement, je vais aller à New York voir ce qui se passe. Par contre, là-bas, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment une ville ouverte, des gens qui vous écoutent. Il y a quelque chose que j'ai toujours gardé à Los Angeles, quand tu dis, ah bonjour, vous venez d'où ? Je dis, ah, du Burkina Faso. À Los Angeles, ils vont dire, ah ok. Puis ils continuent. À New York, bonjour, vous êtes d'où ? Du Burkina Faso. Ah bon, c'est où ? Voilà la différence. Et j'ai beaucoup appris. Mais à un moment aussi, je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris, je crois que je pourrais être plus libre chez moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer.
Alors, mon ami, ça va ?
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous ?
Quand on vous demande d'où êtes-vous, que répondez-vous ?
Du Burkina Faso.
Non mais des fois.
Ben non, d'où je viens. Waouh,
la glace monstrueuse.
Oh, on aurait dû, hein.
Va falloir que vous m'aidiez, les filles. J'y arriverai jamais toute seule.
Franchement, vous avez.
Vous voulez goûter, Apolline ?
Ah ben oui, j'aimerais. Je vais.
Ah
je
ben
vais
voilà.
Mais ça fait sorbet.
Ça fait sorbet. Ouais,
ben okay. Voilà.
Ouais. Je vais laisser un petit peu fondre, je crois. Donc vous êtes revenu au pays étrangement parce que vous vous sentiez plus libre qu'ailleurs dans le monde.
Pas ailleurs dans le monde, plus libre que aux États-Unis. C'est tout. J'avais fait un film de fin d'études qui s'appelait The Price of Ignorance, le prix de l'ignorance. Ma mère m'a appelé qui me dit il y a le FESPACO 2001. Il faut que tu envoies ton film. Je lui ai dit, mais c'est quoi le FESPACO? Moi, je suis dans le pays du cinéma. Qu'est-ce que tu veux que je fasse au FESPACO? Elle a insisté et puis je lui ai dit, bon, ok. J'ai envoyé le film comme ça, naïvement. Et le film a été retenu. Finalement, ils m'ont payé le billet. Je suis venue, je me suis retrouvée au FESPACO. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? C'est où je suis où? J'étais tellement perdue. Et j'étais vraiment intimidée. Et le jour de la remise des prix... l'ouverture et la clôture au FESPACO, c'est impressionnant. C'est vraiment au stade avec près de 50 000 personnes, quoi. Et je dis, ok, ben on y va. Ben, j'étais en tapette. Puis après, oh, Apolline Traoré, prix du jury. Mon court-métrage. Je dis, quoi ? C'est pas possible. Alors je pars en tapette recevoir mon prix. Et là, quand les gens ont entendu Traoré, ils disent, mais attends, c'est pas une américaine, c'est une Traoré, mais une Traoré d'où ? Puis ils se sont rendus compte que j'étais chez moi, que j'étais une Burkinabé.
Idéalement, vous qui aimez raconter des histoires, c'est vraiment votre truc. Est-ce que vous étiez à l'époque attaché à cette idée de raconter le continent ? Ou pas forcément ?
Pas forcément à l'époque. Mais je voulais en tout cas parler de femmes, ça je savais ça. Et je voulais aussi parler des Noirs, des Africains. Pas forcément de mon continent, pas forcément de ma culture, parce que je ne la connaissais plus. Mais après le FESPACO, je me suis rendu compte que c'était ma place. Pendant le FESPACO, j'ai rencontré M. Idrissa Ouédraogo, qui m'a persuadé de faire quelque chose en Afrique. Et je crois que c'est en faisant cette série, justement, mon Irama, que je me suis dit, mais je suis libre, je fais ce que je veux, comme je l'entends.
Donc on va l'écouter, cette série de télé africaine que vous avez intitulée Monia Erama. Vous l'avez créée en 2002 et il semble que dans cette série vous y épinglez la mentalité féminine.
Tu veux toujours le même modèle ?
Christelle, tu me fais quelque chose de spécial aujourd'hui. J'ai envie de séduire.
Hé, Aline, toi avec tes hommes là.
Ma chère, qui c'est qui va payer mes factures ?
Fais attention. Qui sait ? Les hommes sont comme des loups affamés. Ils mordent sur tout ce qui bouge.
Tu as dit mordre, hein ? Moi, ma chère, je croque.
Tu connais mon cousin Shérif ?
Shérif, oui, je l'ai déjà vu.
Il sort avec deux meilleures copines.
Shérif sort avec deux femmes à la fois.
Je te dis.
Je les connais, ces deux personnes-là ?
Mounia et Ram.
Shérif sort avec Mounia et Rama à la fois. Elles ne le savent pas.
C'est ce que je t'ai dit, non? Je dois même croiser Rama au Danka ce soir.
Ce soir? À quelle heure?
18h.
Et Mounia ne le sait pas?
Bien sûr, elle ne sait pas.
Ça, c'est intéressant, ça. Un homme qui sort avec deux femmes. Ça, c'est un vrai ça. Comme je les aime.
Écoutez sur RFI une série télé burkinabé ici à Bucarest. J'ai dit Bucarest, hein. Avec vous, Apolline Traoré. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série ? Il y a un ton un peu sitcom, typique de la télé, dans ce Monia et Rama, où l'amitié féminine, vous l'utilisez comme un ressort dramatique ?
Oui. Je voulais parler de l'amitié forte, et comment l'homme pouvait tout détruire de foi. Vous allez me dire que j'aime parler des hommes dans le mauvais côté, mais bon, peut-être c'est vrai, hein, mais bon.
Mais les femmes, c'est pas franchement à leur honneur, hein.
Pas du tout. Pas du tout, justement. Vous savez, les ragots détruisent, hein.
La rumeur, c'est une très très belle thématique pour le continent. Hein.
Exactement. Et les rumeurs chez nous sont tellement prises au sérieux que voilà.
La rumeur fait loi.
Exactement.
En tout cas, ce que vous voulez porter à l'écran, c'est le visage de nouvelles héroïnes.
Oui. Ça manque énormément. Vous savez, l'Afrique n'a pas vraiment d'héroïne dans le sens où, par exemple, quand on prend les États-Unis, ils ont Wonder Woman. Ils ont ce genre d'héros. Il faudrait qu'on l'ait.
C'était qui les héros de votre enfance, dans cette enfance qui a été très, très voyageuse, puisque au gré des affectations de votre papa diplomate, vous êtes retrouvé au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Tchad. Mm-hmm. Comment vous vous êtes construit une espèce de petite mythologie intérieure?
Avec les BD, ça va vous sembler un peu bizarre, mais Tintin. La bande dessinée Tintin est celui, je pense, qui m'a emmené dans le cinéma, qui m'a fait voyager, qui m'a fait devenir ce que je suis, d'une certaine manière.
Vous ne trouviez pas Tintin et surtout Hergé un peu raciste sur les bords, parce que c'est le procès qu'on fait aujourd'hui à Hergé.
J'étais jeune, qu'est-ce que j'en
savais? Tintin au Congo, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que j'en savais? Je savais rien du tout. C'était très difficile pour moi de voyager avec mes parents. Et ça a une influence un peu sur moi aujourd'hui, parce que j'ai du mal à m'attacher aux gens, énormément.
C'est une déchirure à chaque fois.
Exactement. Je croyais, quand je lisais Tintin, je croyais que j'étais à l'intérieur, que j'étais avec lui. Et ça m'a énormément aidée. Chez moi, on sait que c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, c'est mon testament, c'est tout chez moi. Vous avez tout un mur dédié aux 23 albums de Tintin que j'ai. Je les ai tous.
Vous qui filmez les visages et les problématiques des hommes et des femmes de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui en tout cas, vos influences viennent du froid. Cap sur le cinéma du Polonais Krzysztof Kieslowski avec Bleu et cet extrait de sa trilogie Bleu, Blanc, Rouge.
Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Son et violon?
Zelto. Et maintenant,
ah, comme arbre à palabre.
Attends, peut-être plus léger, sans les percussions. Si on retire les trompettes.
Le cinéma de Kieslowski avec une petite glace au chocolat. Toujours à Bucarest. Alors lui, il a eu à se battre contre l'opacité d'un système, le système communiste, et ça a sans doute induit des choix artistiques chez lui. Mmh. Est-ce que pour vous c'est pareil? Est-ce que vous êtes en train de vous battre contre un système, peut-être celui des non-dits d'une certaine société?
Oui, je crois que je suis en train de me battre pour la place de la femme en Afrique. J'ai été élevée par une mère très forte, très libre, et j'ai été élevée loin de ce que vraiment les femmes africaines pouvaient subir.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, quand je suis rentrée en Afrique, j'étais vraiment étonnée. J'étais étonnée, par exemple, que les maris avaient 3-4 femmes.
Donc la polygamie, oui, ça vous étonnait ?
Oui, ça m'étonnait. Ça m'étonnait que c'était normal. Ça m'étonnait que les femmes étaient 2 fois chassées de leur maison quand leur mari mourait, et que la famille récupérait leurs biens. Il y a beaucoup de choses qui m'étonnaient, que je n'avais pas vécu, que je n'avais pas vu. Et naturellement, je crois que j'ai pris position pour parler de ça.
Est-ce que vous vous sentez proche du cinéma africain aujourd'hui? Joker,
ouais. Cinéma africain, je ne sais même pas comment répondre à cette question. Je balance, tout simplement, parce que c'est quoi finalement le cinéma africain? Est-ce que c'est une histoire africaine avec des Africains? C'est ça qui fait un cinéma africain? Je ne suis pas sûre. Maintenant, quel est le genre de cinéma que je fais? J'aimerais dire que c'est un cinéma africain parce que je suis africaine et j'ai toujours ma culture africaine. Et peut-être que j'utilise juste la technique que j'ai connue de l'Amérique. Mmh.
Trois espaces intérieurs hein, circulent en vous. Le professionnalisme américain, le propos africain, pour aller vite, et la langue française. Il faut qu'on en parle de cette langue française. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quel a été le lien qui s'est rompu, qui s'est remis en place? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah écoutez, d'abord je m'étonne même de tenir cette conversation depuis qu'on parle avec un français assez correct. D'abord, je n'étais pas très bonne avant de partir. Puis après, je reviens. Non seulement on me traitait d'américaine, après que j'arrivais pas à faire une bonne conversation sans mettre des mots anglais dedans. Je cherchais à tout moment mes mots. Et ça me frustrait parce que les gens pensaient que je voulais me la jouer américaine. Pourtant, ils ne savaient pas quelle galère j'avais de chercher mes mots. Et puis je me suis dit non, ce n'est pas possible. Si je décide de rentrer en Afrique et je décide de faire mon cinéma ici, il faut que je retrouve mon français. Et je me suis réappliquée, j'ai réappris à parler en français en lisant.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Apolline Traoré de nous avoir fait rêver dans ce Bucarest qui s'est un petit peu américanisé à votre contact. On va se quitter avec... vous allez devoir choisir entre les États-Unis et les États-Unis. Whitney Houston d'un côté, I Have Nothing, ou Rihanna de l'autre, Man Down.
Ah non, I Have Nothing. C'est pas à comparer.
Sol majeur à réécouter en podcast sur notre application Pure Radio et sur Twitter et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Téméthane. À demain.